Mission Vision avec Alain Renaud.
Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode de Mission Vision, toujours réalisé en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Et oui, déjà 10 épisodes au compteur pour Mission Vision dans sa nouvelle formule depuis que j'ai eu le plaisir de prendre la barre de l'émission en remplaçant Pierre Brisebois. Alors, un de mes invités aujourd'hui est en grande partie responsable de ma présence à ce micro, mais j'ai 4 invités. Ce ne sera pas nécessairement une célébration, mais j'ai un quatuor d'invités. Puis je vous reviens tout de suite à l'instant à Mission Vision. Donc, je disais, pour ce 10e épisode, j'ai pensé inviter un quatuor d'invités qui représente un peu l'esprit de l'émission jusqu'ici. Émission que j'anime depuis le mois de décembre 2023. Puis, ben, c'est donc avec un grand plaisir que je reçois de nouveau ma toute première invitée de ma première émission du 8 décembre. C'est Marie-Claude Garceau. Je lui avais posé une question et le premier bloc de 15 minutes était fini et j'avais trouvé que c'était très facile de faire de la radio à ce moment-là. Alors, c'est ça, je vous présente Marie-Claude Garceau parce que on avait parlé d'un projet de course en duo, course inclusive, un projet qui s'appelle Les Visionnaires. Et puis, on est à notre deuxième saison. On s'était rencontrés. Marie-Claude, bonjour.
Allô!
Excusez cette introduction un peu bancale. Mais donc, on s'était rencontrés au mois de décembre parce qu'on concluait un peu la saison, cette première saison des Visionnaires, que tu avais quand même mis sur pied avec David Trudel de l'INCA. Donc, on avait fait un peu récapitulation de cette première saison. Et puis, ben, on est maintenant au mois d'avril et puis les Visionnaires existent toujours. Alors,
oui.
Je me disais que pour cette 10e émission, on pourrait célébrer le fait que les visionnaires existent toujours. Toi, ben, t'es travailleuse sociale, mais t'es surtout une coureuse de fond, hein, une coureuse qui fait des grandes distances, mais une coureuse aussi engagée. Et puis, le projet des visionnaires est un peu un exemple parfait de ton implication et aussi donc, c'était un projet de maîtrise, là, si je peux le rappeler rapidement, puis tu peux nous en parler aussi de comment était venu ce projet-là au mois d'août l'année dernière.
Oui, c'est ça. Bien, pour les auditeurs qui n'étaient pas là nécessairement et qui n'ont pas écouté ta première émission, c'est ça. Moi, je suis travailleuse sociale et une grande passionnée de course à pied. Je ne vis pas avec un handicap visuel. Par contre, je me posais beaucoup de questions sur la place de l'inclusion dans le sport. Et une des questions que je me suis posée, qui est un peu à l'origine de mon projet de maîtrise, c'était est-ce que de diviser le monde du sport et du parasport peut-être, dans certains cas, générer en fait de l'exclusion sociale, vu que c'est deux univers parallèles qui ne se rencontrent pas nécessairement.
Mm-hmm.
Donc, le défi que je me suis lancé, c'était de faire un projet de course inclusif, mais qui rejoindrait une communauté mixte. Ce que je veux dire par communauté mixte, c'est pas juste des gens avec handicap visuel, mais des gens avec handicap visuel et sans handicap pour créer ensemble, prendre des décisions pour créer un club de course.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas un club qui fait juste offrir des services d'accompagnateurs de course. C'est un club qui est pensé par et pour tout le monde. Donc, la première année, c'est sûr que j'ai pris un peu plus de leadership avec mon collègue David, qui est mon associé. Là, je dirais qu'il était aussi la tête pensante de ce projet-là.
Mm-hmm.
Et ça a super bien fonctionné. La première année, on a réussi, là, j'ai fait le décompte parce que comme c'est dans le cadre de mon projet de maîtrise, des fois, je prenais des notes. Il y a en tout une quarantaine de personnes qui est venue courir avec les visionnaires.
Okay.
Mais on a rejoint bien plus de monde que ça parce que des fois, on a participé à des courses, il y avait des gens qui nous voyaient. Fait que notre existence commence à prendre forme, pas juste dans le milieu du parasport, mais même dans le milieu de la course régulière. Puis, le projet avait un début, puis une fin qui était en lien avec ma maîtrise, mais un des objectifs, c'était que le groupe devienne autogéré. Et ça aurait pu ne pas fonctionner,
effectivement.
Mais ça a fonctionné.
Effectivement.
Donc, il y a beaucoup de monde dans le groupe qui ont dit « Moi, j'aimerais ça travailler de façon bénévole à donner une deuxième saison à ce groupe-là, dont toi, entre autres, qui est maintenant un des principaux leaders, organisateurs de ce groupe-là. »
De notre comité exécutif qu'on appelle, ou notre comité organisateur, là. On a formé
exactement.
Justement au début de cette année, hein, c'est au début de cette année là, qu'on a, entre autres, réalisé que toute ton implication et celle de David, c'était le temps de prendre la relève, là, que vous aviez travaillé très fort les deux. Mais effectivement, toi, dans le cadre de ton projet de maîtrise, t'avais terminé. Mais c'est ça, je pense que l'engouement de tout un bon noyau de l'année dernière, l'engouement était tel qu'on s'est dit, on n'arrête pas ce projet-là, cette expérience-là comme ça. Je pense que il y avait des, comme tu dis, plein de gens, plein de coureurs, coureuses étaient prêts à mettre la main à la porte, puis les pieds sur la piste, puis continuer le projet. Alors c'est ce
oui,
qui arrive.
Oui, on n'est pas des professionnels, hein. Tu sais, je veux dire, pour les gens, mettons, qui voudraient venir courir avec nous, on a autant des coureurs qui ont de l'expérience que des coureurs débutants, mais je pense que ce qui fait que les gens ont le goût de venir au visionnaire, c'est la course, c'est comme une excuse, c'est un prétexte, en
aussi,
fait. On aurait pu faire du yoga, du tricot. En fait, je pense que ce qui solidifie le groupe des visionnaires, mon impression de ce que j'ai vu dans l'engagement, c'est l'engagement. C'est l'engagement à créer un projet alternatif.
Mm-hmm.
Fait que tout le monde, puis ce qui est intéressant aussi dans le comité organisateur, il y a beaucoup de membres, mais il y a quelques membres qui ont levé la main et qui ont dit « Moi, je suis prêt à donner plus de temps pour l'organisation. » Je pense qu'on a soit la parité ou peut-être même qu'il y a plus... J'ai pas le nom de tout le monde, mais je pense qu'il y a plus de personnes en situation d'handicap visuel que de gens qui n'ont pas de handicap. Donc, ça rend le...
Le défi...
ça rend le projet intéressant parce que c'est pas juste de l'inclusion dans une activité, c'est de l'inclusion, c'est faire ensemble, puis penser à des structures ensemble... Et c'est ça, en fait, je pense, l'unicité des visionnaires. Puis on le fait en s'amusant, t'sais, pas en parlant de choses sérieuses.
Non, non, on est quand même là pour s'entraîner, se mettre en forme, puis on s'entend, n'importe quelle activité sportive, quand elle est pratiquée en groupe, elle est encore plus motivante. Et puis elle est bonne pour la tête, puis elle est bonne pour l'esprit, puis je pense que ça, je peux... permettre de le dire personnellement, pour une personne souvent en situation d'handicap visuel ou tout autre, on a besoin de faire sortir un peu de méchant. Et puis la course, en tout cas personnellement, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien, puis je pense qu'il fait beaucoup de bien à... ça fait du bien à tout le monde, mais je veux dire, quand tu es en situation d'handicap visuel, il y a des actes, il y a des gestes qui sont plus longs, plus difficiles à poser. Puis le fait de se retrouver en groupe avec un groupe comme les visionnaires, courir en duo avec des personnes voyantes, ça fait un exercice là, vraiment qui comble, puis qui est agréable, puis qui est d'un grand plaisir. Je pense, une grande satisfaction pour tout le monde, autant pour le guide que pour la personne non-voyante ou malvoyante. C'est ça, il y a quand même une chose importante à dire, c'est de la façon dont tu as pensé le projet avec David. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne encore cette année, c'est qu'il y a un côté ouvert, un côté, c'est ouvert, on n'est pas dans une structure hyper complexe d'inscription, de coûts, d'engagement. Il y a un engagement, mais tout ça dans la liberté, tout ça dans en tout cas, une façon, je trouve, de fonctionner qui est quand même très accueillante. Et puis, pas
c'est
trop.
Ça, les gens, ils viennent s'ils veulent.
C'est ça.
Puis s'ils ne veulent pas revenir, ils ne reviennent pas.
Exact.
Puis s'ils veulent s'engager beaucoup, 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 ils peuvent le faire.
C'est ça.
Puis s'ils changent d'idée, puis après, ils ne veulent plus s'engager, ils peuvent le faire. Mm-hmm. Tout simplement. Puis, Alain, est-ce que tu serais d'accord, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient ça avoir plus d'informations ou venir courir
oui.
avec nous, de te contacter? Puis, avant que tu donnes les coordonnées pour te rejoindre, vu que tu es maintenant un organisateur
ouais.
visionnaire.
Dans le recrutement.
Juste pour dire, c'est ça exactement, un membre du recrutement. C'est l'activité principale, je vous dirais, c'est beaucoup les mardis. À 18h, à la piste Étienne-Desmarteaux. C'est situé dans Rosemont.
C'est collé au. C'est près du cégep de Rosemont, du collège de Rosemont. C'est vraiment la rue adjacente au, sur Beaubien, entre Beaubien et Bellechasse. C'est ça, juste une rue à l'est là, de. Le parc est à l'est du parc, du collège de Rosemont. Et puis bon, avec l'autobus 18, si on vient en autobus, c'est très simple, en arrivant du métro Beaubien.
Ou encore de métro P9, il y a aussi l'autobus P9.
OK.
Pour les gens qui viennent en transport adapté, l'année passée, c'est en face d'un CHSLD, on donnait l'adresse du CHSLD qui est disponible aussi via toi, si les gens veulent l'avoir.
Près du point de rendez-vous.
C'est ça. Fait que il y a des gens qui se disent « Ah, je vais être capable de me rendre jusqu'à maintenant. » Je pense qu'on n'a jamais égaré personne.
Non, c'est ça.
Puis le deuxième entraînement a lieu la plupart du temps les samedis matins à 10h au parc Maisonneuve.
Exact.
Mais on est ouvert à peut-être modifier cette journée-là, des fois pour les jeux du soir.
C'est ça.
Ou... En fait, l'activité fixe, c'est le mardi. Et les autres courses, c'est selon les besoins et les demandes des gens.
C'est ça. Et puis, donc, les mardis, c'est ouvert. Vous savez, c'est sûr qu'idéalement, me contacter, je peux vous donner mon numéro de téléphone, 514-978-3027. On a une page Facebook, Les Visionnaires. Vous pouvez aller avoir l'information supplémentaire en allant sur la page Facebook Les Visionnaires ou en me contactant mon numéro de téléphone. Vous pouvez aussi me contacter au RAM, au Regroupement des aveugles amblyopes du Montréal métropolitain. Au même numéro, le 978-3027 dans le 514. Et puis, donc, les mardis, on est ouvert. C'est la journée la plus populaire. On est en 10, 12 et un peu plus. Toujours comme on dit avec non-voyants, malvoyants et voyants. Et puis, voilà en gros le fonctionnement. Écoute, Marie-Claude, ça a passé encore un peu trop vite. On n'aura pas le temps de s'étendre sur peut-être comment ta maîtrise se passe. Mais on peut dire que le projet des visionnaires, lui, fonctionne bien.
Ben, moi, ça me rend heureuse. Pour la maîtrise, la rédaction, on en reparlera. C'est toujours quand même une étape fastidieuse.
Oui, c'est ça. J'imagine, je sais que tu fais un podcast, ou tu travailles sur un podcast, mais bon, j'imagine peut-être que quand tu déposeras ta maîtrise, je pourrais te réinviter à Mission Vision. Sinon, est-ce qu'on avait... je pense qu'on a pas mal fait, le tour de ce qu'on peut... ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens. Puis peut-être qu'on le dit, il y a même des gens qui peuvent venir marcher seulement. S'il y a des gens qui ne sont pas encore à l'aise ou qui ne sont pas nécessairement à l'aise à courir, on a aussi des marcheurs qui peuvent se joindre au groupe. Et puis, vous allez être bien accueillis. Puis, beaucoup de plaisir, en tout cas, les mardis soirs au parc Étienne-Desmarteaux. Marie-Claude Garceau, je te remercie énormément, puis merci d'avoir participé à mon 10e épisode de mon émission alors que tu étais ma toute première invitée. À bientôt, Marie-Claude.
Ça fait plaisir, bye.
Merci, bye. De retour à Mission Vision et je suis présentement en compagnie de François Beauregard, un coéquipier sur la glace avec le club de hockey sonore Les Hiboux et aussi un collègue à Canal M depuis cette idée de fou qu'il a eu de me proposer en tant que remplaçant de Pierre Brisebois à la barre de Mission Vision, l'émission que vous écoutez présentement. Alors, bonjour François.
Bonjour Alain.
Merci d'avoir accepté de participer à cette 10e émission. je parlais qu'on était coéquipiers avec les Hiboux de Montréal. Je ne sais pas si tu peux nous présenter rapidement aux éditeurs. Oui, qu'est-ce que sont ces Hiboux?
Que font les Hiboux?
Hein, oui, voilà. Exact.
Les Hiboux de Montréal, c'est un club de hockey sonore qui existe maintenant, qui vient de célébrer tout juste cette saison, son 45e anniversaire. Pour ceux qui ne le savent pas, le hockey sonore est la version adaptée pour les personnes qui ont un handicap visuel, la version adaptée du hockey que nous connaissons tous. Il y a quelques adaptations pour permettre à une personne handicapée visuelle de participer pleinement au sport. La première et la plus évidente est que la rondelle, au lieu d'être une rondelle de hockey ordinaire, c'est une rondelle qui est en fait deux fois plus épaisse et deux fois plus large qu'une rondelle de hockey en caoutchouc. En fait, c'est un boîtier en acier peint en noir dans lequel il y a 8 petites billes en métal. C'est très bruyant. Okay. C'est vraiment un train d'enfer. C'est lent, c'est gros, et c'est bruyant. Alors, ça permet de repérer à l'oreille à quel endroit sur la glace se retrouve la rondelle. Également, les buts sont plus bas que des buts de hockey ordinaire. Ils font 6 par 3 plutôt que 6 par 4.
Okay.
Parce qu'on pourra comprendre que les gardiens complètement aveugles, on essaie de ne pas leur envoyer trop de rondelles sur la marboulette.
Mais bon, ça peut arriver, puis surtout avec cette rondelle de métal.
Oui, voilà. Ils ont un masque, on se comprend.
Oui. Il faut dire qu'à part ces particularités que tu viens de nommer, le reste, c'est un sport tout
pas
équipé.
C'est du hockey ordinaire.
Sur la glace,
équipement. Oui, avec des arbitres, des hors-jeux. Des controverses, sans blague.
Puis du jeu rapide.
Oui.
C'est
surprenant. Les gens qui entendent parler pour la première fois du hockey sonore pensent que nous sommes de malheureux pingouins.
S'imagine la partie de hockey de hockey belles oreilles dans un skate célèbre, non, ça n'a pas du tout. Tu as mentionné que les gardiens souvent vont être les deux joueurs avec le moins de vision, ou même s'ils ont un peu de vision, ils vont jouer les yeux bandés, mais tous les joueurs sur la glace ont différentes pathologies, mais tout le monde a un peu de vision. C'est ça. De la vision, on ne peut pas être difficilement complètement aveugle pour jouer.
Alors, les Hiboux, c'est le club local de Montréal depuis 45 ans, 1979. Les Hiboux sont actifs et jouent tous les lundis de septembre à fin mars, début avril.
Fin mars, c'est ça. À l'aréna Francis Brouillon.
Brouillon, près de métro Préfontaine.
Des fois, je vais Brouillon, mais en général,
parfois, c'est le jeu.
Il est très bon. Donc, c'est ça, tous les lundis. Et puis, toi, depuis quand t'es quand même un des vétérans, là?
Oui et non, mais disons que je suis tombé par hasard sur le hockey sonore par une annonce. Dans un calendrier de la Fondation des aveugles du Québec. Mon premier match remonte au 28 décembre 2005. Alors, ça fait donc 18 ans que je joue, 19 ans. Mon premier match, et après ça, tous les autres, là, j'ai jamais vraiment décroché.
Okay.
Au contraire, ça a changé ma vie de mille et une façons, meilleures les unes que les autres.
Est-ce que tu patinais déjà à l'époque?
J'avais déjà joué quand j'étais plus jeune.
Okay.
J'ai joué du temps où ma vision était meilleure. Moi, je fais de la rétinite pigmentaire. C'est une maladie dégénérative de l'œil. Donc, ma vision tend à disparaître petit à petit avec l'âge. J'ai joué dans une ligue de garage ordinaire avec une rondelle ordinaire jusqu'à l'âge de 31 ans. J'ai arrêté parce que là, je n'étais plus capable de jouer.
Je savais
qu'il y avait la rondelle, mais je n'étais pas capable de recevoir une passe.
Okay.
Donc 17 ans plus tard, j'ai recommencé à jouer au hockey avec les Hiboux.
Puis nos Hiboux qui ont la plus de nombre d'années derrière eux, là, on parle de...
Il y en a qui ont déjà
Martin,
25 ans.
C'est ça. Hein?
Oui,
je pensais que tu avais autant d'ancienneté.
Il y en a plusieurs. Quelques-uns qui sont au-dessus de 20 ans. de jeu. Puis, moi, je suis plus vieux en âge.
Ouais, c'est ça. T'es notre doyen.
Je suis arrivé sur la scène du hockey sonore, j'avais 48 ans.
OK.
Alors, c'est arrivé sur le tard, comme c'est on dit.
Ça. OK.
Mais voilà. Mais,
et puis, t'es arrivé sur le tard, mais on peut parler de l'expérience que t'as eue dans l'équipe nationale canadienne, parce qu'il y a une équipe nationale canadienne de hockey sonore.
Aujourd'hui, oui.
Donc, l'association canadienne s'appelle c'est Blind Hockey Canada.
Oui, Hockey Sonore Canada, qui a été fondé en 2010. Okay. Parce qu'à l'origine, pendant très longtemps, il y a eu du hockey sonore au Canada.
C'est ça.
Mais essentiellement, c'était des clubs qui existaient en vase clos. Il y avait un club à Vancouver, un à Toronto, un à Montréal,
okay.
avec des règlements qui étaient tous un peu différents.
Oui, des rondelles différentes aussi.
Oui, des objets différents.
C'est ça.
En fait, on jouait avec des objets qui n'étaient pas le même.
C'est ça.
Qui avaient le même but, mais que c'était pas la même chose.
Une petite précision pour la rondelle avec laquelle les hiboux ont joué pendant des années, c'est-à-dire... La boîte de conserve de jus de tomate.
Oui, 48 onces, oui.
C'est ça.
48 onces de jus de tomate peinte en noir.
Peinte en noir.
On ne peut même pas appeler ça une rondelle.
Non, c'est ça. C'est un objet.
Un objet, oui, exact.
Mais c'est ça.
En 2010, il y a eu finalement une réunion des responsables des trois équipes canadiennes pour standardiser les règlements et adopter un objet commun, ce qui a permis à ce moment-là la création d'événements nationaux, régionaux, des tournois, ainsi de suite.
Okay.
Et le hockey sonore s'est beaucoup développé au Canada et par la suite aux États-Unis et encore aujourd'hui est en train de faire un bout de chemin en Europe.
C'est ça, tranquillement. Faut le dire.
Tranquillement. Dans cette foulée, en 2018, les États-Unis nous ont invités à un challenge qu'il y ait une équipe nationale américaine et qu'il y ait une équipe nationale canadienne qui puisse regrouper ceux que l'on croyait être les meilleurs joueurs de part et d'autre. Et j'ai eu l'insigne honneur d'être sélectionné
pour
l'équipe nationale canadienne, en fait à 4 reprises, 2018-2019. Là, il y a eu la pause COVID, puis après ça, 2022-2023.
OK.
Et puis, à chaque fois, on a battu les Américains.
Oui, c'est ça.
Là,
on a un déficit. Oui, on a un déficit d'opposition en ce moment-là.
Notre programme a continué à progresser,
c'est
le leur aussi,
ça.
Mais le nôtre, un brin plus vite. Mais,
c'est ça.
Le fait de l'existence d'une équipe nationale, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, ça crée une émulation.
C'est ça, c'est une motivation.
Il y a des jeunes maintenant qui commencent à participer à des programmes d'initiation au hockey sonore. Il y en a à Montréal en juin. Leur vedette, entre guillemets, là, ce ne sont pas que des joueurs de la Ligue nationale, mais ce sont aussi des joueurs des équipes nationales, comme quoi ils s'identifient.
Puis c'est
ils se
ça.
Disent, ben, peut-être il ou elle, parce que déjà,
c'est ça. Aussi, c'est ça.
Elles se disent, ben, peut-être un jour, je pourrais jouer.
Et puis, la fondation, la création de ces deux équipes nationales-là, comme tu dis, c'est dans l'idée aussi de faire progresser le sport, puis de le faire connaître.
Oui, tout à fait.
Et donc, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense qu'on était à Saint-Louis, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 semaines.
Il y a 10 jours à peine, il y avait une série Canada-US où
c'est
nous avons encore triomphé de nos rivaux traditionnels.
C'est ça.
Je n'y étais pas comme joueur.
Non, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Alors, tu me voles la rondelle dans le coin, mon François. Parce que
ça arrive à l'occasion que ce soit l'inverse.
C'est ça. Parce que donc, tu n'étais pas là comme joueur, mais tu es maintenant...
directeur général ou quoi que ce soit.
C'est ça.
Quelque chose comme ça.
Ouais.
En fait, au moment de la dernière sélection pour l'équipe nationale qui allait affronter les Américains à Saint-Louis, je n'ai pas été sélectionné.
C'est ça. De plus jeune et de plus fou, ton...
rendu...
Ben oui,
65 ans,
c'est
là,
ça.
On peut voir que...
C'est ça.
Je n'ai pas fini de jouer au hockey.
Non.
Sonore, mais pas à ce niveau-là.
Et puis, bon, tout le monde prend sa retraite un jour. Hein?
Voilà, exact.
On n'a qu'à penser à Maurice Richard. Même Maurice Richard a pris sa retraite un jour.
Après ça, il joue encore.
C'est ça.
Donc, j'ai eu l'insigne honneur qu'on me demande de continuer à participer au programme national. Ça m'a fait plaisir de me retrouver à Saint-Louis.
Dans l'organisation.
Même atmosphère.
C'est ça.
De camaraderie. Et de dépassement sportif.
C'est là, ça, c'est parce que ton implication a été, on peut le dire, là, je pense que tu es allé aux États-Unis, je pense que tu es allé en Finlande, tu as aussi participé à beaucoup d'événements pour faire la promotion du sport.
Oui, exact.
Et
oui,
puis,
tout à fait.
Par rapport à tout ça, tout ton temps passé sur la glace, ton temps passé dans l'organisation, ton implication, ben le Blind Hockey Canada, Hockey Sonore Canada a eu vraiment la gentillesse et la touchante...
La délicatesse.
La délicatesse de retirer ton chandail numéro 17, le premier chandail.
Voilà. Alors, je ne sais plus avec quel chandail je vais jouer maintenant qu'il est au pilier.
Donc, on a célébré cette chose, entre autres, au souper annuel des Hiboux, samedi dernier, le 20 avril. Donc, c'est le souper qui clôt la saison des Hiboux avec un match. On est au centre récréatif de Longueuil, si je ne me trompe pas. Et donc, à cette occasion-là, où on fait toujours notre souper, un peu de musique, et puis toi, tu fais un bien cuit avec
tout. Ben, quelques blagues, oui. Ils ont souligné l'événement. Ça m'a fait chaud.
Et on était live sur la chaîne
sur
YouTube, Facebook Live, de Hockey Sonore Canada. Et puis donc, avec le directeur de hockey, Blind Hockey Canada, Matt Morrow, qui s'est déplacé pour l'occasion. Mm-hmm. On a présenté des témoignages, tout ça. Je pense que tu n'y attendais pas, si je ne me trompe pas.
Non, du tout. Ben, je ne m'attendais pas à ce qu'on tire mon numéro. Une fois que ça avait été annoncé, je ne m'attendais pas à ce qu'on en remette et puis tout ça. Alors,
c'est ça.
C'était une très belle surprise. C'est la première fois que le chandail d'un joueur est retiré de l'équipe nationale est retiré. Alors ça, c'est très gentil.
C'est super.
Voilà.
Comme disait Matt, pour l'instant, l'équipe nationale de Hockey Canada n'a pas son aréna. Alors, en attendant ce moment où on aura notre aréna, ce sera le chandail qu'on pourra retirer
au plafond. Monter au plafond, mais enfin...
au plafond.
J'espère que... on se comprend que ça ne veut pas dire que j'arrête de jouer. C'est certainement un signe d'honneur, parce que mon chandail numéro 17, là, ça fait 18-19 ans que je le trimballe partout au Canada, aux États-Unis puis en Europe. Alors, je suis comme content de savoir que c'est mon numéro.
Super. Et puis, peut-être qu'on le répète jamais assez, mais les Hiboux cherchent toujours des nouveaux joueurs.
Oui.
Alors, toute personne intéressée à pratiquer le sport du hockey, est le bienvenu. Je pense que le plus simple, c'est sans doute d'aller sur notre site, François.
Oui, hiboudemontréal.org.
C'est ça. Et puis, merci François à ta présence à ma 10e émission. Donc, je disais, est-ce que j'avais dit que c'est dans le vestiaire que tu m'avais un jour proposé cette opportunité de venir faire mon émission.
Oui,
c'est ça.
écoute, je savais que tu serais bon. Hein?
Puis, je peux peut-être aussi profiter pour mentionner que ton émission hebdomadaire,
sans détour,
est présentée à Canal M tous les lundis à...
midi, de midi à 13h30.
Midi à... Alors, merci beaucoup, François. Félicitations encore.
Merci,
Alain. Et puis, on se recroise sur la glace.
On se voit sur la patinoire, un de ces quatre.
Parfait. À bientôt.
Merci. Bye.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Alors, vous êtes toujours à Mission Vision, à l'antenne de Canal M. Ce n'est pas le 10e anniversaire, mais quand même, déjà le 10e épisode de cette nouvelle série coproduite avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Je reçois maintenant Yann Martin, directeur du défi sportif Altergo. C'est un défi qui est une grande célébration du parasport et donc je trouvais que c'était peut-être un bon lien à faire avec le 10e épisode de Mission Vision. Monsieur Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Et puis oui, ça va bien, puis je vous demande ça, je me dis que vous devez être un peu dans la fébrilité en ce moment, sans doute.
Oui, depuis quelques semaines déjà, mais aujourd'hui, là, on entend notre dernier stretch. Le défi commence d'ici la fin de la semaine, donc on est dans les derniers préparatifs.
Alors, présentez-nous un peu ce défi sportif là, qui est quand même qui est déjà à sa combientième édition?
On est à notre 41e édition cette année.
41e, c'est quelque chose. Donc, 41e, ça veut dire que c'est un défi qui a énormément grossi et est devenu vraiment important dans les dernières années.
Oui, vraiment, on a une belle place. On est reconnu pas encore où on voudrait nécessairement, okay, mais on a une belle reconnaissance. On a laissé notre marque au fil du temps, donc on est fiers de cet événement-là. On a une solidité au niveau de la marque, donc les gens nous reconnaissent. On a une crédibilité, on est ancré, on a des partenaires qui sont là depuis plusieurs années, donc ça aide là à solidifier tout ça et à créer un événement qui est à la hauteur des attentes de nos participants.
Puis si vous nous le décriviez rapidement, là, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça implique exactement ce défi sportif?
Ben, le défi sportif Altergo cette année, ben on fait ça sur 10 jours. Donc, on a 10 jours de compétition. Les athlètes, on en a plus de 6000 qui vont compétitionner dans 9 sports différents,
okay,
provenant de 22 pays. Puis, on a autant de la relève, donc des jeunes qui partent du primaire de 5 ans, 6 ans jusqu'à 21 ans pour le niveau scolaire.
Okay.
On a un volet développement, donc avec des équipes provinciales, nationales. Puis on a un volet élite avec des compétitions internationales.
OK. Et puis, compétitions internationales, si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils peuvent aussi servir aux qualifications pour les Paralympiques? Est-ce que c'est le cas ou...
Pas cette année. La période de qualification pour la Coupe du monde de World Boccia qu'on a, qui est un de nos deux événements internationaux,
okay,
la période de qualification est terminée. Mais l'année passée, les athlètes qui ont compétitionné pouvaient accumuler des points qui leur permettaient de se faire
okay,
une place, d'accumuler des points au classement mondial. Cette année, c'est pas le cas. La période est fermée.
Okay.
Par contre, je pense que ça peut quand même donner des points pour un prochain championnat du monde ou une prochaine compétition internationale, là. Donc,
okay,
c'est toujours important pour... au niveau du boccia, il y a 3 à 4 Coupes du monde par année.
Okay.
Donc, chaque compétition pour eux est une compétition importante.
Okay.
Puis ça permet aux athlètes de se rencontrer et de compétitionner un contre l'autre à quelques occasions. Donc, on est fiers de compter sur un de ces événements-là à Montréal depuis plusieurs années.
OK. Puis, à part le boccia, est-ce qu'il y aurait d'autres sports qui, à certaines années, peuvent servir d'une qualification ou c'est vraiment le seul au niveau...
C'est déjà arrivé. Cette année, c'est la seule.
Okay.
Mais au niveau international, on est fiers de pouvoir compter sur une compétition de Power Chair Soccer,
okay,
à 7 équipes venant de 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis. Puis c'est le début de quelque chose qui va se faire. Ils mettent en place ça cette année. Là, c'est une première pour ça.
Okay.
C'est une compétition qu'ils veulent faire aux 2 ans.
Donc,
okay, 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis, vont s'affronter à chaque 2 ans dans un pays différent.
Okay.
Puis la première édition se tient à Montréal dans le cadre du défi sportif cette année.
OK. Puis vous avez appelé comment exactement? J'ai mal entendu le nom exact. Là.
J'ai pas le nom officiel, mais c'est en fait une compétition de Power Chair Soccer.
Power Chair?
Le nom de l'événement n'est pas encore défini.
Ah,
je l'ai
okay,
pas, je le connais pas.
Non,
par
le nom du sport, je veux dire.
Oui, le Power Chair Soccer.
OK, Power Chair, donc on est en fauteuil roulant?
Oui.
Oui, OK, OK.
Oui,
c'est
okay, des fauteuils motorisés avec un ballon soccer surdimensionné.
OK.
Puis les athlètes doivent marquer dans un but comme au soccer.
OK, OK. Puis motorisé, vous dites, des chaises?
Oui.
Les fauteuils?
Oui.
OK, OK.
Fauteuil électrique.
Donc ça va vite ou c'est...
Ça va très vite.
Ça va très vite.
Oui, les fauteuils sont barrés à certaines vitesses parce
okay,
que sinon,
oui,
il y a des enjeux de sécurité.
OK, OK.
Mais ça bouge vite quand même.
Et puis donc, c'est relativement nouveau ou c'est ça que vous dites?
Non, ça fait plusieurs années.
Okay.
Malheureusement, c'est pas un sport qui est paralympique.
Okay.
Donc, c'est un sport qui est pas encore reconnu à ce niveau-là.
Okay.
Mais c'est un pays qui est pratiqué dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de clubs.
Okay.
Mais c'est ça, ils ont pas la chance de compétitionner aux Jeux paralympiques encore.
OK. Mais donc, on a parlé de 7 pays là, cette année au défi sportif, c'est ça?
22 pays.
Non, je parle pour le Power Chair Soccer, je parle.
3 pays, 7 équipes.
OK, 7 équipes, 3 pays, parfait. OK, je comprends. On a parlé de boccia tantôt. Peut-être,
oui.
Moi, je le connais pas depuis longtemps, là. Ça fait un an là, que j'ai pris connaissance de ce sport. Peut-être que vous pourriez le décrire un peu à nos auditeurs qui sont pas nécessairement familiers avec ce sport quand même assez particulier, qui est le boccia.
Oui, le boccia, c'est un sport qui est vraiment intéressant. Pour monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas ce sport-là, ça ressemble beaucoup à de la pétanque, où mm-hmm, on lance un cochonnet, puis par la suite, chaque équipe s'affronte avec 6 balles. C'est celui qui met ses balles le plus proche du cochonnet qui fait des points.
Okay.
Mais malgré le fait que c'est pas un sport qui est physique autant que d'autres sports paralympiques qu'on
mm-hmm,
connaît,
mm-hmm,
c'est un sport qui est très stratégique. L'implication intellectuelle est vraiment importante parce que les athlètes doivent réfléchir, doivent bien se positionner, doivent effectuer les bons lancers, la bonne force, la bonne distance, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant à regarder, puis ça requiert toutes les habiletés possibles pour ces athlètes-là, même si c'est pas des athlètes qui se déplacent énormément pendant la compétition.
C'est ça, on parle d'athlètes avec en situation de handicap au niveau de la mobilité, est-ce qu'il y a différentes catégories ou on parle...
Oui, il y a différentes catégories selon le niveau de handicap, de limitation. Par contre, c'est tous des gens qui ont des limitations au niveau des membres supérieurs. Donc, des fois, ça peut être la coordination, ça peut être la force, ça peut être beaucoup de choses. Donc, lancer la balle au bon endroit est un effort pour eux autres.
C'est ça.
Il y a même des athlètes qui ne lancent pas la balle, qui utilisent une rampe.
Qui la font...
qui
la font glisser, finalement. Qui la font rouler à partir d'un...
Mais malgré tout, il y a quand même un effort de... Parce que même si c'est un assistant qui place la balle sur la rampe, ben ils doivent donner les instructions à l'assistant endroit mettre la balle. C'est eux qui relâchent la balle au bon moment. Donc, il y a tout un travail qui se fait, là. C'est intéressant à voir. C'est vraiment spectaculaire.
Je pense qu'on peut inviter les gens à aller sur le site d'Altergo, où vous avez pas mal, beaucoup d'exemples de vidéos. Entre autres l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a encore cette année, mais l'année dernière, il y avait des super reportages sur des athlètes québécoises, une athlète québécoise, entre autres des athlètes québécois qui pratiquent ce sport. C'est ça, l'émission Mission Vision, on tourne beaucoup aussi au niveau de l'accessibilité et pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, les personnes non-voyantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes des compétitions là, au défi sportif qui impliquent les membres de la communauté des personnes non-voyantes, malvoyantes?
Oui, ben on n'a pas de sport dédié spécialement pour cette clientèle-là, uniquement. On a déjà eu du goalball de plusieurs années. On aimerait ça le revoir.
En
ce moment, les sports qu'on a qui sont à faire pour cette clientèle-là sont l'athlétisme et la natation.
C'est ça.
Donc, autant au niveau scolaire, les athlètes qui ont une limitation d'efficience visuelle peuvent compétitionner.
OK.
Et on a aussi une compétition de paranatation, donc qui n'est pas dans le volet scolaire, mais les athlètes qui nagent, qui ont une limitation, tout ça, donc peuvent s'inscrire, compétitionner. Puis, on a la même chose en athlétisme. Et ce qui est le fun, c'est que les athlètes, par exemple, qui compétitionneraient au niveau provincial, national, international même, pourraient venir au défi sportif, faire la compétition de paranatation ou de para-athlétisme, puis avoir des temps qui sont comptabilisés sur le classement mondial ou le classement national.
OK.
Donc, c'est des compétitions qui sont sanctionnées par les fédérations.
OK.
Puis, cette année, là, j'ai pas les chiffres devant moi, donc je pourrais pas vous dire s'il y en a qui sont inscrits.
OK.
Mais c'est les deux sports qui sont offerts où cette clientèle-là peut s'inscrire puis compétitionner.
OK. Puis, ben c'est ça, dans le fond, quand je parlais du défi qui peut servir à justement des qualifications au niveau national, international ou donc c'est un exemple justement de compétition qui peut servir à homologuer un temps qui va servir peut-être à l'athlète dans son cheminement finalement.
Oui, effectivement, puis on est très content cette année. Notre nouveau slogan, c'est « Tout part d'ici ».
OK.
Pour mettre en évidence justement qu'on a des athlètes qui ont déjà commencé au défi sportif à leur jeune âge, des fois au niveau scolaire, des fois dans un autre sport. Donc, on a des jeunes qui ont compétitionné au niveau scolaire, par exemple, en natation, puis par la suite, qui se sont retournés vers un autre sport, qui ont compétitionné au niveau international. Je pense à un joueur de para-hockey qui est rendu sur l'équipe canadienne. Ben vraiment, son parcours a commencé au défi sportif, puis a évolué, a cheminé. Au boccia, on pourrait avoir la même chose. Donc, des athlètes qui ont compétitionné au niveau national, qui maintenant compétitionnent au niveau international pour l'équipe canadienne. On en a une cette année. Marie-Lou, qui était une de nos ambassadrices l'année dernière, qui est rendue, qui compétitionne pour l'équipe canadienne cette année. Donc, elle a cheminé au fil des ans chez nous.
Okay.
Puis on est fiers de souligner le parcours de ces athlètes-là. On en a aussi au niveau officiel, au niveau bénévole, des gens qui ça fait plusieurs années puis qui ont grandi chez nous, mais on a des athlètes qui ont commencé puis qui est okay. maintenant compétitionnent à des très hauts niveaux.
Puis si on parlait de peut-être les sports peut-être les plus populaires du défi qu'on aurait à surveiller là, rapidement, quels sont les sports peut-être les plus populaires ou qu'il y a une adhésion là, au niveau du public? Puis est-ce que je ne sais pas si vous avez un exemple ou deux là, qui peut peut-être intéresser là, nos auditeurs qui pourraient être intéressés à aller assister au défi?
Ben, c'est sûr qu'on vient de parler du boccia, étant donné que c'est une Coupe du monde à okay. deux pays. C'est une compétition quand même qui dure... Ben, le boccia, il y en a pendant 10 jours, mais la okay. Coupe du monde dure 7 jours de temps. Ça se déroule à l'aréna Maurice Richard. Donc, okay. vraiment quelque chose de... C'est très relevé. Là. C'est les okay. meilleurs athlètes au monde. Okay. On a 95 okay. athlètes inscrits.
OK. OK.
Sinon, une autre compétition qui est toujours le fun à voir, c'est le basketball en fauteuil roulant.
Qui se tient à quel endroit? Il nous reste peu de temps. À quel endroit peut-être majorité des... le basket, par exemple, hein?
Le basketball se tient au centre sportif du Cégep Édouard Monti okay. à Longueuil.
OK.
Sinon, donc, ben, le sport scolaire au complexe sportif Claude Robillard, okay. c'est spectaculaire à voir. Même okay. si c'est des jeunes enfants, c'est vraiment spectaculaire de les voir donner ouais. 110% de ce qu'ils peuvent.
OK. Ben, j'invite de toute façon nos éditeurs à aller sur le site d'Altergo. Le site est super bien fait. Vous allez avoir toute l'information nécessaire pour aller assister et suivre ce défi sportif. Monsieur Martin, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à Mission Vision.
Ben, merci à vous.
À une prochaine.
Merci.
Donc, on termine ce 10e épisode de... En passant du côté de la culture, on a parlé beaucoup d'accessibilité dans le sport avec mes trois premiers invités. Dans les 10 derniers épisodes de Mission Vision, on a énormément parlé de théâtre, de danse avec audio description. Donc, ma 10e émission n'est peut-être pas assez représentative de ce côté-là, mais au moins, j'ai mon invité du Musée d'art contemporain qui pourra équilibrer les choses après avoir parlé du défi sportif d'Altergo, de hockey sonore avec les hiboux et de course en duo avec les visionnaires. Donc, je reçois Lilia Kadri du Musée d'art contemporain pour une présentation de la toute nouvelle expo qui vient tout juste d'ouvrir au Musée d'art contemporain. Une expo qu'on peut dire avec fierté accessible parce que... bonjour Lily, premièrement. Bonjour Lilia, excuse-moi.
Donc, enchantée, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Oui, nos nombreux auditeurs à Canal M et à l'émission Mission Vision. écoute, tu es conseillère à la diversité, capacitaire merci. Et l'accessibilité donc au Musée d'art contemporain. C'est ça, parle-nous un peu de cette nouvelle expo, donc « Femmes, volcans, forêts et torrents ». Femme, volcan, torrent. Pardon, femme, volcan, forêt, torrent. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de « et ». Donc, qui vient de tout juste de débuter, là, on a dit tantôt le... Quelle date exactement?
Le mercredi de la semaine. ça fait presque deux semaines, ça fait bien 10 jours.
Oui, c'est ça. On est en avril. C'est ça, d'accord.
C'est ça. Donc, cette exposition, elle se tient toujours dans nos locaux à Place Ville-Marie. Mm-hmm. Et ce, jusqu'au 18 août 2024. Okay. Donc, effectivement, nouveau sujet, donc « Femmes, volcans, forêts, torrents ». C'est une exposition de la commissaire d'exposition Marie-Ève Beaupré qui a souhaité rassembler le travail de 9 artistes femmes, hein, comme mm-hmm. on l'entend dans le titre. Ouais. Donc, on parle beaucoup d'écoféminisme. Là, on a 9 artistes femmes qui sont établies au Québec. Okay. C'est leur point commun. Et qui vont vraiment s'intéresser à l'environnement et comment parler aussi de l'urgence de la situation et du climat à travers des œuvres poétiques et sensibles.
OK. Donc, 9 artistes qui sont sur le territoire, mais qui sont d'origines diverses, là, qui ne sont pas tous...
Exactement, tout à fait. On a quelques artistes du Québec, mais également du Mexique, du Chili et encore d'Iran.
OK, d'accord. Et puis, donc, une expo qui touche beaucoup aussi à l'environnement, il faut le dire. On est quand même au niveau du thème de l'environnement. On le voit par le titre. Je sais pas si tu peux nous passer ça. Donc, je disais que l'expo est accessible, c'est-à-dire que il y a eu un travail en amont à ce niveau-là. Je pense que tu peux nous en parler un peu là, de qu'est-ce que ça implique exactement.
Bien sûr. Donc, c'est ça, cette exposition, elle expose 9 œuvres, hein, puisque une œuvre par artiste. Mm-hmm. On va vraiment aborder différents médiums, hein, donc aussi bien du dessin, de la sculpture, de l'installation. Beaucoup d'œuvres sonores, hein, donc ouais. Déjà immersifs au niveau de ce sens-là.
Vidéo quand même,
sonore et vidéo. Exactement. Effectivement, depuis qu'on est à Place Ville-Marie, on a d'autres normes, on va dire... On n'a pas les normes forcément muséales, donc on expose vraiment beaucoup de vidéos.
OK, OK. C'est dans c'est dans une optique particulière ou c'est un hasard là, que quand même les dernières expos étaient quand même beaucoup au niveau de la vidéo, si je ne me trompe pas, dans les deux dernières années, là, moi, pour mes visites? Est-ce que
alors, effectivement, c'est lié au contexte, hein, le fait qu'on soit à la place, qu'on ne soit pas à la place des arts, fait qu'on n'a pas forcément de normes de conservation pour exposer certains types d'œuvres.
OK, donc on
que par exemple une peinture va potentiellement plus se dégrader, donc c'est aussi pour ça.
OK.
Que, effectivement, on a une programmation assez variée de vidéos, mais au sein de cette exposition, on va vraiment retrouver d'autres médiums, donc ça qui est aussi intéressant, du dessin, des installations sculpturales également.
OK, OK. Et donc au niveau d'accessibilité, on a travaillé au niveau de de l'audio description. Mm-hmm. Entre autres.
Alors, c'est ça. Donc, effectivement, hein, donc, pour celles et ceux qui étaient venus pour l'exposition, ça fait il y a déjà plusieurs mois, l'année dernière, ouais. Lily Rédouard, on avait déjà effectivement instauré le premier parcours audio décrit. Donc, c'est encore le cas pour Femmes, Volcans, Forêts, Torrents. Donc, l'idée, c'est que, comme d'habitude, hein, pour notre offre culturelle, on propose aussi bien un parcours pour les personnes qui viennent en autonomie sans médiateur ou médiatrice. Mm-hmm. Et après, bien sûr, les visites sensorielles avec des expériences tactiles pour les visites accompagnées.
OK, organisées.
Donc, pour la visite en autonomie, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on a donc un parcours audio décrit, toujours sous forme de QR, hein, qui vont être placés dans les salles d'exposition. On a pris cette fois le parti pris d'écrire également donc des introductions aux salles, aux espaces, aux trois grandes salles d'exposition.
OK.
Donc, des introductions vraiment sur chaque artiste, chaque intention, chaque œuvre. Et ensuite, il y a deux œuvres qu'on va rentrer davantage en détail. Ce sont les deux œuvres qui appartiennent à la collection du Musée d'Art Contemporain.
Ok.
Donc, Caroline Gagné, Le Bruit des Icebergs, et Sabrina Raté, Floralia.
Ok. Et puis, une partie de l'expo provient de la collection du musée, mais le reste, c'est donc la commissaire, c'est les artistes qui ont été invités à venir exposer.
C'est ça, exactement. On a deux œuvres de la collection et donc 7 œuvres qui vont être des prêts.
OK.
Et c'est ça, donc on a les codes QR et puis on a également, comme l'exposition donc, de Lily, on a un cartable d'accessibilité qui est disponible à l'accueil billetterie. Il suffit de le demander et mes collègues vont aussi en parler.
Okay.
Donc c'est un cartable où on va retrouver justement un plan tactile des salles d'exposition de manière à retrouver l'emplacement, la spatialisation, donc l'emplacement des œuvres et également l'emplacement de chaque... audio description.
OK, OK. Puis on a finalement sur les neuf exposantes, on a combien de descriptions, d'audio description, parce qu'on n'a pas nécessairement d'audio description pour tous les 9 œuvres, si je ne me trompe pas.
Mm-hmm. Alors c'est ça, donc celle où on rentre vraiment dans le détail, dont une, il y aura une synchronisation avec l'écran. Au moment où on arrive devant l'écran,
okay.
La description s'arrime. À l'image, on va dire, qui est projetée.
OK.
Et donc, c'est ça, on a deux œuvres où on a plus de détails. Et après, pour chaque œuvre, on va vraiment décrire chaque grande salle, mais en prenant le temps tout de même de parler de l'artiste,
okay.
Un petit peu d'où elle vient, l'apparence aussi de l'œuvre et tout de même son intention.
C'est ça. Parce qu'on s'entend que quand on parle d'audio description dans une visite d'un musée, d'une galerie, on peut se rapprocher de l'audio guide, mais il y a quand même des différences, là.
Absolument, absolument, parce qu'un audio guide va parfois reprendre effectivement peut-être le cartel ou une anecdote. Là, on va vraiment rentrer en détail pour comprendre la mise en espace,
la description,
à quoi ressemble l'œuvre, quel, quelles couleurs sont utilisées. Alors, c'est ça, on va vraiment décrire de manière à ce que chaque personne puisse se recréer aussi l'image mentale de cette œuvre-là.
C'est ça, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça peut ça. Des détails dans l'audio description peuvent être dans l'audio guide, mais c'est quand même c'est deux choses différentes. Si on parlait, j'ai visité l'expo, c'était le soir du vernissage, il y avait énormément de monde, alors c'était pas nécessairement le moment d'essayer les audio guides, c'est ce que je vais faire un peu plus tard, mais si je peux juste parler rapidement là, de ce qui est exposé, je pense surtout moi qui à la base dans une vie antérieure puis encore aujourd'hui illustrateur, peintre, c'est sûr que j'ai beaucoup accroché sur la salle avec les œuvres de l'artiste dont tu pourrais me rappeler le nom, qui a travaillé sur un carton de bois.
Escoura, les oiseaux migrateurs, les oiseaux néotropicaux.
Ouais, ça m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas si tu peux nous décrire rapidement cette œuvre qui est quand même, je dirais, qui sort du lot, par exemple, enfin, qui est tout à fait différente de, je dirais, l'ensemble de l'expo.
Alors, Maria Escoura, c'est effectivement des dessins. Oula, j'ai plus le chiffre en tête, on en a bien 150.
Ah ouais, comme il faut, ah ouais,
à toi. 150 dessins d'oiseaux migrateurs, hein, donc que l'on voit au Québec l'été,
okay.
Et qui partent hiverner, enfin un terme aussi,
qui
hivernent okay. Au sud pendant l'hiver. Donc l'artiste, il se trouve qu'elle a telle une personne qui observe les oiseaux, hein, pendant plusieurs années, elle a observé les oiseaux dans un technoparc plutôt industriel à Montréal.
Ah oui.
Et elle a choisi de dessiner les oiseaux à échelle. Donc on a certains oiseaux très petits, d'autres très grand, très imposant dans l'espace d'exposition.
Ok.
Et elle les a classés de manière à créer comme une sorte de grande mosaïque.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que chaque oiseau qui est dessiné au feutre ou au crayon sur le carton, à côté de lui, on a une pastille, un petit rond coloré, rouge, vert ou jaune, qui correspond à son statut de conservation.
Okay.
Est-ce qu'il est en très bon état aujourd'hui, cette espèce-là? Est-ce que cette espèce est en voie d'extinction? Est-ce qu'elle est déjà éteinte à l'heure actuelle?
Ok.
Il paraît une manière de nous sensibiliser, effectivement, et elle nous parle beaucoup aussi du fait qu'aujourd'hui, même dans la migration, on a beaucoup de frontières, mais que les oiseaux, finalement, ils vont totalement être libres dans leur déplacement.
Ok. Et puis, il faut le dire que les dessins sont sur des boîtes de carton.
C'est vraiment du carton recyclé pour rappeler aussi un peu la mondialisation. On commande, on reçoit des cartons qui ont fait du trajet, qui ont parcouru des pays, qui ont parfois eu d'autres usages également.
Ok, et puis ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'on s'entend que c'est une matière dégradable, plein d'acide, et puis
exactement.
Que bon, y a tout un geste, toute une position en décidant de faire des œuvres sur une matière là, qui n'est pas muséale, si on peut dire. Et puis, c'est ça, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que chaque boîte, c'est des boîtes finalement qui sont mises à plat, donc avec toutes les différents types de boîtes, avec les différentes plis qu'on peut trouver dans une boîte. Et puis effectivement, c'est très impressionnant, la dimension, les différentes dimensions des différents oiseaux avec la mosaïque que ça crée, c'est vraiment très impressionnant. Moi, je voyais aussi le côté éphémère du carton qui se dégrade quand même assez rapidement si on le compare avec un papier sans acide ou des papiers muséales d'archives qui sont bons pour la vie, qui ne jauniront pas, alors que là, je sens qu'on peut faire quasiment un lien avec la fragilité de l'écosystème des oiseaux, puis de justement l'état dans lequel se trouvent ces espèces-là. Donc, je disais, c'est quand même une pièce qui m'a beaucoup impressionné. Je sais pas si tu peux me parler d'autres, d'une ou deux autres artistes là, qu'on pourrait décrire un peu la démarche par rapport à l'ensemble de l'expo.
Absolument. Et ce que je voulais effectivement mentionner, tu as totalement raison, on a l'usage de matériaux pauvres hein, qui rappellent aussi. On a des artistes qui travaillent autour de l'environnement, donc on a des matériaux effectivement qui ont souvent une vie avant d'arriver dans l'espace muséal.
Okay.
Alors ensuite, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a vraiment des œuvres qui abordent différents territoires. Donc on a également des œuvres qui reproduisent, telle Nelly Eve Rajot qui a numérisé une forêt dans le secteur de Trois-Rivières. Et donc là, c'est une installation vraiment immersive dans une salle à part.
Okay.
On est plongé dans l'obscurité et on a trois grands murs qui projettent justement cette comme promenade en forêt, comme si on rentrait à l'intérieur de la forêt, qui est composée de milliers de pixels. Et on a également un, okay. C'est intéressant, un son, différents sons hein, dans cette salle, qui sont produits à partir de, du lien entre un vrai arbre qui est dans la salle d'exposition, qui sera replanté par la suite.
Okay.
Et cet arbre est relié avec des électrodes à un synthétiseur hein, sur lequel on a 12 bandes sonores. Et c'est vraiment pour montrer qu'un arbre va émettre de l'électricité sous forme de hertz.
Okay.
Bon, je ne suis pas scientifique, là, mais c'est
non,
ça.
Non, c'est
l'idée,
bon.
C'est que selon l'énergie de l'arbre, selon l'électricité, le synthétiseur va produire différents sons.
Parfait. Ben écoute, je t'ai posé une grande question en voulant décrire encore d'autres artistes de l'œuvre, mais de l'exposition, mais finalement, le temps nous rattrape. Alors, donc, ça, j'invite les gens à aller visiter le Musée d'art contemporain. J'ai quand même oublié de dire que, bon, le RAM, des membres du RAM ont participé à l'élaboration de l'audiodescription pour, donc, la deuxième année avec le Musée d'art contemporain, donc, l'expo l'année dernière de Lily Reynaud-Devoir. Et donc, c'était notre deuxième collaboration avec le RAM et le Musée d'art contemporain. Puis, bien, on va souhaiter encore de nombreuses et fructueuses collaborations. Et puis, juste rappeler, c'est ça, donc, il va y avoir des ateliers avec visite et tactile. Juste vérifier, donc, le calendrier du RAM. Et puis, bien, Lilia Kadri, je te remercie beaucoup. On se reparle.
Donc, tout à fait, hein, vous aurez, les audiodescriptions vont être sur le site et puis effectivement, on proposera une visite sensorielle avec des matériaux à toucher qui ont été prêtés gracieusement, très généreusement par les artistes.
Parfait.
Et ensuite, un atelier de création.
Parfait, je te remercie beaucoup, Lilia.
Donc, à très bientôt, merci pour tout et
okay.
Puis on vous attend avec impatience.
Parfait, bye bye.
Bon après-midi, merci.
Eh bien, merci d'avoir écouté ce 10e épisode de Mission Vision. Présenté par le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, et un sincère merci à Mathieu Tessier à la régie. À très bientôt.